Et je confirme pour Pompage, c'est une ressource fondamentale. Avec OpenWeb, bien sûr. Et puis encore une autre, hein. Encore une autre, Alza Création. Et puis encore une autre dont je vais vous parler aussi. Alors d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette conférence. Je suis très fier d'y participer. J'ai l'impression que c'est un moment important pour les standards en France. Ils m'ont demandé de parler de qualité web. Ça tombe assez bien parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je me suis dit peut-être que le plus intéressant sur ce sujet, c'est de faire une espèce d'état des lieux de la qualité web en 2006, de voir un peu d'où on vient et où on va dans ce domaine. Donc je vais me présenter. Donc je suis Élise Lehim. Je suis directeur d'une société qui s'appelle Pardon. Bon sang, il faut absolument qu'on change les graphismes quand on intervient tous les deux. Oubliez, c'est pas la même. Donc il m'a tué là. Donc je suis directeur d'une société qui s'appelle Temesis. Donc on fait de la formation, de l'expertise, du consulting autour de la qualité web. C'est une société qui a été montée en 2000 avec vraiment au départ cette spécialité depuis un moment. Donc les trois piliers, c'est qualité, conformité, accessibilité. On travaille aussi beaucoup de plus en plus sur deux pôles qui sont d'une part l'élaboration de documents de référence, donc des référentiels. On a notamment développé un référentiel pour un groupe international bancaire pour la qualité de leur site. On a développé la charte du Conseil régional d'Aquitaine, c'est un travail qu'on fait beaucoup en ce moment. Et puis on commence à développer des prestations d'expertise pour des agences web qui n'ont pas forcément justement cette compétence autour de missions élaborées, XHTML, CSS, accessibilité. Par ailleurs, j'ai d'autres activités. Depuis 2004, je suis contributeur Open Web, donc je m'étends pas. Je pense que tout le monde à peu près connaît le site. Des fois, je dis que je suis responsable qualité, mais vraiment depuis un moment, j'ai trop de boulot, j'arrive pas à tenir ça. Donc, je publie des articles quand je peux. Et puis, par ailleurs, je suis directeur et fondateur d'un projet qui s'appelle OpQuast, qui est une liste publique de bonnes pratiques pour la qualité des sites Internet. Cette intervention, en fait, va se dérouler de la façon suivante. D'abord, je vais essayer de vous proposer un modèle pour voir un peu qu'est-ce que cache cette expression qualité web. Dans une deuxième partie, qui sera extrêmement longue, puisqu'elle n'aura qu'un seul slide en tout, mais sur lequel on pourra peut-être un peu discuter. On verra, est-ce que notre secteur va vers une industrialisation ou pas? C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, cette question d'industrialisation, parce que je viens du monde de la qualité, je dirais classique, ISO 9000, ces choses-là, ces cochonneries-là. Et puis après, on descendra plutôt sur les aspects opérationnels, parce que OpQuast, c'est plus, je dirais vraiment, c'est vraiment quand on doit mettre les mains dans le cambouis, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on doit avancer? Et puis pour finir, je ferai une rapide conclusion sur ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire avancer la qualité web. Alors, comme je vous disais au départ, je viens donc du monde de la qualité classique. Je suis chimiste, je ne suis absolument pas informaticien. Je ne connais rien du tout en informatique, même si je code beaucoup maintenant. Donc, chimie et une spécialisation en assurance qualité. J'ai travaillé longtemps dans le domaine du vin et aussi dans le domaine du pétrole. Les deux ne peuvent pas se boire. Et en 99, en fait, je me suis simplement posé la question de savoir ce que pouvait vouloir dire le fait de simplement de mettre un E devant qualité. C'était la grande mode, e-business, e-quelque chose, e-machin, bon, e-qualité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, sur cette question de départ, en fait, on n'est pas parti en disant on connaît la vérité, on se dit est-ce que ça cache des choses? Et là, on est tombé sur plein de prestataires qui savaient faire des choses, qui proposaient leurs prestations. C'était vraiment, on a senti que c'était vraiment le tout début, mais il n'y avait pas, disons, on n'avait pas affaire à une discipline véritablement arrêtée. La première chose à faire a été de décomposer la question. Donc de se dire, on parle de qualité web, de quoi parle-t-on? Donc quelle est la question? Comment évaluer, gérer et garantir la qualité des sites Internet? Donc c'est des questions qui vont se reposer dans les années à venir. Hein. Évaluer, donc comment est-ce que je fais pour avoir une image fiable de la qualité de mon site à une date donnée? Gérer, est-ce que j'ai des outils qui me permettent de contrôler la qualité des sites Internet? Et garantir, est-ce qu'il y a des gens, des tiers de confiance qui sont capables de délivrer des labels, des sceaux, des certifications qui disent, voilà, oui, ce site est de bonne qualité. Donc, on est parti sur cet aspect-là. On a créé un annuaire. C'était la première chose à faire, évidemment, pour recenser des ressources hein, sur un site qui s'appelait iqualité.com. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que dans cet annuaire, mes catégories, elles partaient un peu n'importe comment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis dans un tableau Excel et j'ai essayé de former des patates pour essayer de comprendre quelles étaient à quoi ça correspondait le travail de ces prestataires par rapport aux exigences des utilisateurs de sites. Alors, j'ai réussi à former 5 patates. Donc, quelles sont les exigences des utilisateurs? En tout cas, donc, je vous dis, c'est un modèle parmi d'autres. Hein. D'abord, l'utilisateur attend que le site fonctionne. Donc, c'est ce que j'appelle la qualité technique. Donc, il attend un fonctionnement correct et répétable, c'est-à-dire que ça marche et que ça marche toujours de la même manière. Bon, évidemment, c'est pas suffisant pour faire un site de bonne qualité. Deuxième chose, il va falloir lui permettre de naviguer et de percevoir correctement le site. Donc là-dedans, on va pouvoir mettre l'ergonomie, le design, la navigation, tous ces aspects-là, c'est-à-dire peut-être la présentation, je dirais d'une certaine manière. Alors évidemment, tout ça ne fait toujours pas un site de qualité. Sans contenu, on n'a rien. Un site sans contenu ne vaut rien. Donc évidemment, il y a la qualité des contenus. Donc là-dedans, il y a la fraîcheur de l'information, la validation des sources, l'orthographe, tout ce qui va correspondre en réalité, en fait, à la qualité des contenus. Mais ça, c'est vrai aussi pour un livre, pour une revue, pour n'importe quel élément qui transporte de l'information, d'une certaine manière. Là où on peut étendre les choses, c'est que même tout ça, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si, par exemple, vous proposez un formulaire de contact ou que vous proposez des fonctions e-commerce, la qualité perçue du site par vos utilisateurs va intégrer aussi le fait que vous répondiez à ce formulaire, que vous répondiez aux emails qu'on vous envoie et qu'ils soient correctement livrés. Le cas échéant, si c'est pas le cas, bah, tout ce que vous avez fait avant n'a pas de valeur. Et quand bien même vous respectez ces 4 points-là, il faut encore en respecter un 5e, qui est que les utilisateurs puissent aussi trouver votre site. Parce que la visibilité est souvent perçue sous l'angle de « il faut que j'arrive à trouver des visiteurs ». Mais on peut aussi le percevoir du côté des utilisateurs, il faut que j'arrive à trouver un site. Donc l'ensemble de ces 5 points permet d'obtenir un service en ligne de qualité. Et généralement, on arrive à se raccrocher à l'un de ces 5 points quand on parle de critères de qualité ou quand on parle de prestataires qui travaillent dans ce domaine. Alors, pour se pencher rapidement sur ce modèle, il y a 2-3, donc visibilité, perception, technique, contenu, service, VPTCS. Il a servi de base d'ailleurs pour la charte du fameux groupe bancaire dont je vous ai parlé. Donc ce modèle, ça vaut le coup de s'y pencher un peu. La première chose qui est importante, c'est qu'on ne peut pas faire de hiérarchie entre ces 5 points. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous voir en vous disant vous avez un problème ergonomique, ou si quelqu'un vient vous dire vous avez un problème technique, ou vous avez un problème au niveau des contenus, si vous avez à affecter des budgets ou à mettre des efforts dans tous ces domaines, vous ne pouvez mettre des efforts qu'en connaissance de cause sur tous ces points-là. C'est le fameux risque de surqualité dont j'avais parlé dans un article il y a quelque temps et dont Laurent a reparlé il y a quelque temps, c'est-à-dire d'un seul coup se dire je vais tout mettre sur un aspect. Je vais rendre conforme toutes mes pages, quitte à avoir 100 000 pages d'archives à traiter, et le cas échéant, je vais peut-être passer à côté de la production de nouveaux contenus ou de l'amélioration de la rapidité de service, etc., etc. Donc, pas d'hierarchie entre tout ça. Deuxième chose, l'interface est une chose. L'interface, elle est sur perception, technique et contenu. Elle est au milieu. Mais il y a des choses qui se passent avant la visite et il y a des choses qui se passent après la visite. C'est-à-dire que la qualité du site, par exemple, la façon dont vous allez recevoir, dont vos titres vont s'afficher dans les moteurs de recherche, c'est une espèce de qualité déportée. La personne n'est toujours pas arrivée, mais elle voit déjà un bout de votre site. Votre URL qui est sur vos supports de communication ou sur vos cartes de visite ou etc., c'est déjà un bout de la qualité de votre site qui est déporté. Et de la même façon, lorsqu'un utilisateur va remplir un formulaire, il va peut-être éteindre son ordinateur et recevoir des informations de vous beaucoup plus tard. Donc l'interface est une chose, mais l'ensemble est un processus relié au fonctionnement de nos organismes, de nos organisations. Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose dont je voulais vous parler. Et puis, alors, il y a un truc super intéressant qui, moi, me sert énormément quand je parle à des directions informatiques, des directions marketing, des directions communication ou des directions TIC, Internet, quoi, technologie de l'information et de la communication. Il y en a beaucoup dans les conseils régionaux. C'est quand on réfléchit à un site Internet, en fait, En regardant ce modèle, en fait, la seule chose qui a de la vraie valeur sur un site internet, c'est contenu et service. C'est-à-dire qu'en fait, la visibilité, elle sert à amener au contenu et service. L'ergonomie, la perception, l'utilisabilité, le design vont servir à amener au contenu et service. La technique va servir à amener au contenu et service. Or, quand il n'y a pas de contenu et de service sur un site ou qui ne sont pas prêts à fonctionner dans des bonnes conditions de qualité, bah, c'est un site vide. Et il y en a beaucoup. Il y en a pas mal, quoi. Voilà. Alors, là, c'était un modèle qu'on a sorti en 2001. Et pour tout vous dire, en fait, on était un peu sur un modèle théorique. On ne savait pas tellement quoi en faire en pratique sur bah, comment on fait pour améliorer la qualité d'un site à partir d'un bidule comme ça. Alors, on avait commencé à recenser un certain nombre d'outils dans le domaine de la qualité web, associés d'ailleurs à chacun de ces aspects-là. Et puis en 2004 ou 2003, j'ai passé un coup de fil à un vieux copain, Tristan Nito. Encore lui, c'est vraiment. Voilà, on le retrouve à chaque coup, mais il n'y a plus rien. Voilà, on se connaissait il y a une vingtaine d'années quand on était dans les années lycée à Paris. Et je lui parle 5 minutes de ce que je fais, il me parle un peu de ce qu'il fait, on se dit au revoir, et 10 minutes après, il me rappelle, il me dit, tu travailles sur la qualité web, je ne sais pas s'il m'a dit t'es un crétin, ou un imbécile, un âne, je ne sais plus. Ouais, il nous a dit, tu connais pas standard, tu connais pas accessibilité, tu connais pas la conformité, tu connais pas open web, va voir open web. Là, sur open web, d'un seul coup, je me rends compte qu'on peut redimensionner les fenêtres, et que le contenu s'adapte, alors que ça faisait 3 ans qu'avec des étudiants, je disais, avez-vous vérifié en 640, 480? Avez-vous vérifié en 800, 600? Avez-vous vérifié avec? On l'a d'un seul coup le bonheur. Donc, on s'est bien réorienté à ce moment-là. Et puis, c'est venu un peu compléter une espèce de boîte à outils qualité web, qui, dans un premier temps, comprenait, donc, je me suis amusé à mettre quelques exemples. Hein. Donc, vous avez les outils des spécialistes, c'est-à-dire les gens qui sont la tête dans leur spécialité. Par exemple, je travaille sur la mesure d'audience, donc je fais du référencement, je suis l'audience, j'ai des indicateurs dans ce domaine. Il y a les méthodes ergonomiques, les ergonomes que je connais, je travaille souvent avec des ergonomes, il y en a très peu qui connaissent ces aspects standards et très peu qui connaissent ces aspects référencement. Le respect des standards pour ce qui concerne notamment la partie technique. Le monitoring de sites internet, qui est d'une partie dont on parle peu dans le domaine des standards, mais qui est un vrai domaine de la qualité web pour toutes les grandes applications, pour les grands comptes. La surveillance de la qualité de service, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'un site peut débiter? Est-ce qu'un serveur marche bien? L'utilisation des CMS pour le domaine de la gestion de contenu. Et par exemple, je vous ai épargné le Customer Relationship Management, le suivi relation client du côté du commerce. Et puis, il y a aussi des outils transversaux. Les outils des généralistes, c'est-à-dire le truc qu'on pourra rattacher à aucun de ces points en particulier, ben, y a notamment l'accessibilité. L'accessibilité, ça joue presque sur tout. Ça va jouer, je pense, sur la visibilité, en tout cas de plus en plus. Ça va jouer sur le fonctionnement technique, ça va jouer sur l'ergonomie, nettement. Ça va jouer sur la façon dont on va structurer ses contenus. Sur les services, c'est peut-être un peu moins évident, mais encore, je suis sûr qu'il y aurait des gens qui me diraient « oui, voilà ». Et puis l'autre question, c'est est-ce qu'il existe des standards de qualité? Alors, tout à l'heure, on parlait de bonnes pratiques, je ne sais pas. Est-ce qu'on a des standards de qualité? Ben, nous, on n'a pas eu l'impression qu'il y en avait énormément dans ce domaine. On peut avoir des standards spécialisés, des normes en ergonomie, des choses comme ça. Mais standards de qualité, et bon, vous me voyez certainement venir, on s'est dit, ça serait peut-être pas mal de travailler là-dessus. Bon, avant de vous parler d'UpQuest, de passer sur le terrain, je voudrais faire un petit slide sur la question de l'industrialisation. Alors, je me suis amusé à classer sur ce chemin vers l'industrialisation de notre secteur 3 phases. Alors, première phase, objectif nul. Alors, c'est pas que les objectifs sont nuls, hein, comprenez-moi bien. Ça veut dire qu'en termes de qualité, on n'a pas d'objectif. Autrement dit, vous imaginez, vous allez très vite voir à quoi je fais allusion. Un client vient vous voir en 97, et vous dit « je veux un site ». Vous, éventuellement, vous allez répondre, si vous avez des objectifs qualité, vous allez répondre « oui, vous voulez un site comment ?» Vous voulez un site accessible, vous voulez un site conforme, vous voulez quelque chose, mais la plupart du temps, dans cette phase, ni le client, ni le développeur n'a connaissance même d'objectifs de standard, c'est-à-dire c'est un certain nombre de personnes qui sont absolument pas critiquables, parce que c'est une phase de découverte, qui est normale, C'est une phase de maturation qui est normale, et ça, il faut le répéter très fort. Il n'y a pas de mépris, mais c'est comme ça. C'est, on découvre, on n'a pas d'objectif. Pas d'objectif qualité. On veut un site, bon, ok, je vais vous le faire. Alors, des fois, on tombe juste. Des fois, le site marche, mais souvent, on se plante, hein, quand même. Alors, si vous vous doutez qu'il en reste encore beaucoup, amusez-vous à taper dans un bon moteur de recherche, à taper un mot-clé qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire de ce qu'on voit tous les jours, livre, DVD, machin, vous tapez canoë, kayak en Ardèche, machin, vous allez voir, c'est étonnant. On a encore beaucoup, beaucoup de sites qui correspondent à cette première phase, où visiblement, il n'y a pas d'objectif qualité. C'est des sites, quoi. Bon, la deuxième phase, c'est on vise des objectifs de conformité, c'est-à-dire qu'on a des objectifs de résultats. Alors là, vous utilisez des standards de qualité, vous utilisez des standards de conformité, des standards techniques, des standards d'accessibilité, et vous vous dites, votre client quelquefois vous dit « je veux un site accessible » ou vous vous dites « je vais lui livrer un site accessible » ou les deux sont d'accord, peu importe. Au final, on tombe déjà un peu plus souvent juste. Je dis qu'on est dans le domaine de l'efficacité, c'est-à-dire que, et selon moi, c'est la phase actuelle, c'est-à-dire qu'on sort les sites. Il n'y a pas de problème, les sites sortent. Il y a peut-être une phase, encore derrière, qui serait une phase qui correspondrait à l'efficience. C'est-à-dire, l'efficience, c'est un terme qui est repris dans le vocabulaire des qualiticiens beaucoup maintenant, et qui est traduit de l'anglais, c'est l'efficacité au meilleur coût. C'est-à-dire que non seulement vous y arrivez, mais en plus vous y arrivez de manière efficace. Alors ça peut être efficace en matière de délai, ça peut être efficace en matière de processus, ça peut être efficace en matière de satisfaction client, mais vous arrivez à avancer de plus en plus précisément sur un processus industriel. C'est-à-dire vous êtes de plus en plus précis. Et là, vous n'allez pas pouvoir vous contenter de travailler sur l'accessibilité finale, la conformité finale, la qualité finale du produit. Vous allez être obligé de rentrer non plus dans les résultats, mais dans les méthodes. Donc vous atteignez un autre niveau qui est, vous commencez à rentrer dans l'industriel et dans tout ce que vous, pour ceux qui ont travaillé dans le monde de la qualité ou pas loin, ou qui ont fréquenté des responsables qualité ou des boîtes ISO 9000, tout ce que vous n'avez pas aimé. Désolé, c'est pas très sympa, mais on va peut-être aller là. Et la question, c'est surtout comment on va être outillé pour y aller. Alors, rapidement, j'aimerais bien faire un petit sondage dans la salle pour voir où vous en êtes, selon vous, dans ces phases. Est-ce que quand vous développez des sites, alors d'abord, qui développe des sites? Ouais, bon, c'est bon. Il y a du monde. Alors, est-ce que il peut vous arriver de développer des sites sans objectif? Qualité, conformité, accessibilité. Je vous huerai pas, personne. Ouais, ok. En phase 1, c'est-à-dire, vous visez, quand vous développez des sites, vous visez des sites conformes, accessibles. Pas toujours. Phase 2, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Oui, ça peut être un choix délibéré d'être en phase 1. Donc, faites au plus vite et on s'en fout, faut que ça sorte. Ça arrive. Alors, je disais en phase 2, parce que je me suis trompé tout à l'heure. Qui est en phase 2? C'est-à-dire que vous visez la conformité des sites que vous produisez. Bon, en gros, beaucoup de monde. Hein. Et qui est en phase 2? C'est-à-dire qui est déjà en mode industriel de production. Phase 3. Alors, je vais vous expliquer ce qui m'arrive. Il m'arrive une cochonnerie. Oui, j'ai un décalage. J'ai basculé en mode moins 1 quand j'ai présenté cette conférence à ma femme, qui m'a dit, enfin, franchement, phase 0, objectif nul, t'abuses, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai fait deux répètes comme ça. Je me suis dit, je vais me la faire tout seul. Et voilà. L'accident bête. Ça allait bien, hein? Mais non. Bon, voilà. Donc, phase 3, donc, c'est-à-dire que vous êtes déjà en mode industriel, vous êtes déjà en mode... Ouais, Denis? Il y en a quelques-uns. Ouais, est-ce que vous pensez effectivement qu'on y va? Qui pense qu'on y va? Donc, vous sentez ce mouvement d'industrialisation qui vient. Et effectivement, moi, j'ai l'impression, dans mon entreprise, même si on n'est pas développeur web, que vraiment, sur ces activités en ligne, on a ce problème-là de basculer, pour nous, hein, de la phase 2 à la phase 3. Et je ne me suis pas trompé sur ce coup. Et puis, on a un autre problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont encore en phase 1. Non pas parce qu'ils travaillent mal, mais parce que c'est des gens qui ont découvert le web plus tard, parce que c'est des gens qui sont pas forcément dans les bons réseaux. Et si vous regardez un petit peu le tissu des agences web et des SS2I en France, plus que 15 minutes, c'est pas forcément si facile que ça. Donc voilà. Donc, je m'attendais un peu à ce type de résultat. Notre salle n'est pas représentative, je pense. Clairement. Alors, pour illustrer un peu ce côté industrialisation, je vais vous parler du projet HopeQuest, et pour commencer, on va se dire quelles compétences faut-il maîtriser quand on crée un site internet. Alors, quelles compétences? Donc, il faut s'y connaître en référencement, en design, en relations clients, l'impression des documents, la qualité du code, les fichiers en téléchargement, l'ergonomie, le e-commerce, le respect des standards, les hyperliens, les plugins, le serveur, la configuration serveur, la traduction, l'internationalisation, la sécurité, le moteur de recherche, les cookies. Ah, excusez-moi, c'est dur. Désolé. C'est bon? Ça va? Ça va? Ça, c'est dur. Quand on travaille sur l'accessibilité, de se rendre compte qu'on ne l'est pas. Les contenus, oui. Les formulaires. La navigation. L'accessibilité. Ok. C'est ma fête. Non, mais j'ai été calmé. Alors voilà. Donc en fait, on se retrouve dans le cas où on a un grand nombre de compétences à maîtriser. Et en fait, en réalité, lorsque vous développez un site web, vous êtes censé connaître tout ça. Et sur chacun des sujets qui est là, vous avez peut-être 10, 20, 30 livres sur chacun de ces domaines. Donc, est-ce que vous les avez lus? Est-ce que votre bibliothèque compte tous ces livres? Donc, probablement non. Et la question, c'est que vous allez quand même faire ça, même en n'ayant pas lu les livres. Donc, on s'est dit à un moment, notamment avec Fabrice Bonny, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, à partir de tout ça, de regarder si on peut se mettre d'accord sur des choses qu'il faut faire, plutôt que d'essayer de tout savoir faire, et peut-être tout savoir faire pas si bien que ça. Donc on s'est dit, on va sélectionner des bonnes pratiques, et on va essayer de réfléchir à tout ça. Donc pour commencer, on s'est dit, il nous faut un filtre, parce que 2000 livres sur les différents sujets dont je vous ai parlé, nous permettrait plutôt d'extraire des milliers de bonnes pratiques. Alors, comment les filtrer? Première chose, qu'elles soient utiles pour les utilisateurs du site et, si possible, pour les administrateurs, alors que ça n'est pas toujours le cas. Deuxième chose, qu'elles soient réalistes, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire demain, vous utilisez telle technologie et ça va se passer tout seul. C'est pas un recueil de vœux pieux. C'est vraiment des bonnes pratiques utilisable aujourd'hui et valable au niveau international parce que le web est un outil international. Et puis, dernière chose, il faut qu'elle soit vérifiable en ligne parce que sur ce qui n'est pas vérifiable en ligne, vous pouvez me raconter des tas de choses alors que sur ce qui est vérifiable en ligne, les utilisateurs le voient. On est sûr qu'ils vont le voir. Alors, on a commencé comme ça. Moi, je suis parti du modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis j'ai écrit 190 bonnes pratiques. Avec Fabrice Bonny, en fait, on a créé 190 forums, un forum par bonne pratique, et puis on a commencé à travailler avec un certain nombre de contributeurs. D'ailleurs, il y en a un certain nombre dans la salle. Il y a des contributeurs HopeQuest dans la salle, des gens qui ont participé au débat. Il y a au moins Denis, quelques-uns, quoi. Peut-être 10, quelques-uns aussi. Donc voilà, on a eu en tout aux alentours de 150 contributeurs, plus ou moins importants. 3000 messages en tout, et ça, la phase a duré 6 mois, phase de réflexion. Et puis, on a aussi choisi de les organiser en niveau progressif pour bien faire passer le message que la qualité, c'est pas un état binaire, oui, non, comme l'accessibilité. C'est quelque chose sur lequel on peut avancer. Au contraire, on se donne ce luxe de pouvoir avancer là-dessus. Alors, quelques exemples de fiches, rapidement. Donc, il est possible de revenir à la page d'accueil depuis toutes les pages. C'est bête, hein. Le serveur envoie une page d'erreur 404 personnalisée. L'indicatif téléphonique du pays est précisé devant chaque numéro de téléphone. La taille des fichiers proposés en téléchargement est indiquée. Important quand on est connecté en RTC, en bas débit. Chaque page comporte un titre significatif et représentatif de son contenu. Donc, là, vous en avez 5. Elles sont bêtes. Quand vous allez voir qu'il y en a 153, ça prend une autre valeur. Parce que 153 fois quelque chose de bête, ça peut faire quelque chose d'assez intelligent. Je pense. Oui, je suis sûr. Voilà. Alors, on a discuté chaque mot aussi. Hein. Il fallait que ça soit valable, c'est-à-dire que ça soit lu de la même façon partout où on avait des contributeurs. On n'a pas encore eu l'occasion de vérifier si ça marchait en Chine. Pardon. Voilà. Alors, ce sont quelques exemples. Donc, il y en a 153. En septembre 2004, on a sorti la V1, donc avec 153 fiches. Pour chacune de ces bonnes pratiques, 153 libellés, 153 objectifs qui nous disent que la bonne pratique est utile, puisqu'on a pu le rédiger, 153 solutions techniques de mise en œuvre qui nous disent que c'est possible à faire aujourd'hui, et 153 moyens de contrôle qui nous disent que c'est vérifiable en ligne. Et on a sorti ça. Quelques mois après, en fait, alors bon, ça a été assez bien reçu. On a commencé à le retrouver dans des cahiers des charges. On a eu assez bonne presse. Et pendant quelques mois, en fait, on a commencé à se dire, tout ça, c'est très bien. Voilà un nouveau contenu qui est proposé sur le web. Mais est-ce qu'il serait pas intéressant de donner la possibilité aux gens de pouvoir faire eux-mêmes leur contrôle, de pouvoir générer eux-mêmes leur rapport de contrôle, de pouvoir eux-mêmes générer des déclarations publiques, etc., etc. Donc, on s'est lancé dans la production d'un outil qui était assez logiquement, s'est appelé Monopquast, qui est en fait un outil d'aide à l'évaluation. C'est pas un outil d'évaluation, c'est un outil d'aide à l'évaluation. Ça va pas tout vous valider. D'abord parce qu'on ne croit pas à la validation automatique. Le web serait le seul métier où la qualité se ferait uniquement de manière automatique. Il y aurait que des moteurs. Plein de fois, je rencontre des gens comme ça qui me disent, c'est pas automatique. Faut s'y mettre. Allez causer de ça à un ébéniste ou un plombier ou n'importe quel autre métier. Il n'y a que dans ce métier du web qu'on peut espérer un contrôle qualité qui ne représente aucun investissement autre que des machines. Ça n'existe pas. Alors bon, il y a quand même un validateur automatique, mais pour un nombre limité de bonnes pratiques, parce que quand même. Donc là actuellement, on est aux alentours de entre 6000 et 6500 utilisateurs et projets. Hein. Et on va sortir une nouvelle version dans quelques jours qui va... Alors, je vous parlais de la phase 1, de la phase 2 et de la phase 3. Typiquement, dans notre tête, la première version de Monopquast était un accompagnement pour la phase 1, c'est-à-dire un standard donné qu'on essaye de viser. Et puis là, on s'est dit, et si on donnait la possibilité aux gens de créer leurs propres critères de contrôle ? C'est-à-dire... C'est plus pour contrôler un site suivant les bonnes pratiques Opquast. C'est vous créez vos propres référentiels internes quand vous livrez une CSS, quand vous faites une refonte, quand vous préparez un cahier des charges. Bah vous faites vos propres listes de contrôle. Donc bon, je sais pas si on aura le temps, je pourrais vous faire une démo, mais je préfère pas prendre le risque de mettre tout le monde à la bourre. Combien de temps va-t-il ? 7. Bon, ça va, je suis bien. La deuxième chose, on est un peu en train d'évoluer vers une idée de gestion de projet orientée qualité. Il y a plein d'outils qui font de la gestion de projet, qui traitent ça sur le thème de planning, de choses comme ça. Et nous, on se dit, est-ce qu'il serait pas intéressant de se focaliser sur les résultats qu'on essaye d'atteindre en termes de qualité? C'est-à-dire, je sais pas, je vous donne un exemple. Là, on fait une prestation là de portage de gabarit conforme, pub. On est en train de se préparer une grille pour cette prestation, pour tout ce qu'on doit livrer. Est-ce que c'est commenté? Est-ce que c'est testé avec tel outil? Est-ce que le client a été prévenu de telle chose? Donc, je fais mes propres grilles de critères. Et je peux aussi gérer un certain nombre de tâches. Bon, je vais pas m'étendre. Alors, aussi, le gros truc qui arrive à mon Opquast et à Opquast, donc toutes les bonnes pratiques dont je vous ai parlé, c'est qu'on le traduit entièrement en anglais. Donc, tout l'outil, tout ça va être internationalisé, d'abord en anglais, et puis on va voir un peu comment ça réagit sur le domaine. Je ne sais pas s'il existe des équivalents, en tout cas de listes de bonnes pratiques. J'en connais pas sous cette forme-là. Vous en connaissez? Je sais pas. Pardon? Il n'y en a pas? Vous avez cherché? Nous aussi. On n'a pas trouvé. Pour en avoir discuté rapidement avec Molly Holschlag au WIF en début d'année, il semblerait quand même qu'au moins, même des gens qui sont bien au courant, seraient quand même assez intéressés que ce genre de bidule sorte en anglais. Donc, ça serait intéressant. Et puis, qui sait, il y aura peut-être d'autres référentiels qui se porteront là-dessus. Voilà. Nous, on aimerait bien vous développer plein de nouveaux référentiels. Qualité CSS. Lui, là. Laurent Denis, que vous avez vu ce matin. On vous en reparlera. Voilà, donc je vais conclure avec deux idées. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de la qualité web aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut se préparer? D'abord, bon, on respectait les normes, mais je parle devant une assemblée qui respecte les normes, quoi. C'est bon, c'est plus la peine, quoi. Vous êtes venus pour rien. On va pas vous dire respecter les standards. Et faites de l'accessibilité, vous allez nous dire, mais oui, pour qui nous prennent? Ça y est, c'est fait. Par contre, il faut pas s'arrêter d'évangéliser. Il faut pas s'arrêter parce que notre vision, à nous, de ça, pourrait nous laisser penser que tout le monde est en haut débit, que tout le monde vit dans notre microcosme, que tout le monde connaît nos blogs, que tout le monde, voilà, et non. Non, non, non. Les standards sont pas encore répandus. Ils sont pas encore dans la culture. Ça vient, je suis bien d'accord. Mais il faut continuer à évangéliser. Et c'est pas facile quand on pense que c'est déjà fait. Parce que autant il y a 2 ans sur Open Web, on avait facilité à écrire des articles parce qu'on était motivé pour évangéliser. Maintenant, on se dit, mais comment, qu'est-ce qu'on peut faire? Il va falloir continuer à enfoncer le feu. Deuxième chose, c'est se dire, on a tout un tas d'applications 2.0. Et on nous parle beaucoup de ça. Alors, si vous voulez, la semaine dernière, j'étais devant mon ordinateur, je suis allé voir plein de blogs, écouter des podcasts, regarder des sites, estampillés 2.0, le tout connecté en haut débit, mais je vous dis, tout va bien. Ne parlons plus de qualité web. Oublions la qualité web. Et en fait, non. On ne doit pas avoir un deuxième écran de fumée. On a déjà eu un écran de fumée en 2000, on s'est fait avoir. Ne prenons pas un deuxième écran de fumée en 2006. Préparons des applications conformes et accessibles. Enrichissons-les avec Ajax. Toutes les fonctionnalités que l'on mettra sur des sites Ajax, que ce soit du point de vue technique, les applications 2.0 techniques ou sociales, doivent pouvoir se traiter sans ça. On doit pouvoir y arriver. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Quand ensuite on voudra accélérer les applications, on n'aura aucun problème. Et nous, c'est ce qu'on fait avec Opquas, parce qu'on utilise Ajax, tire-larigot, 2, c'est parfait. On utilise énormément Ajax pour accélérer l'application. Vous imaginez évaluer 153 bonnes pratiques sur un site, ça peut servir, quoi. Mais vous désactivez JavaScript, vous allez passer impec, si on a bien travaillé. Mais ça a l'air d'aller. Voilà, donc on consolide et on repart. Je plains les gens qui vont passer directement de la phase 1 à cette fameuse, à ce web 2.0. Parce que quand il va falloir revenir en arrière, peut-être qu'ils auront déposé le bilan. Qu'ils vont souffrir. Ça peut être dur. Donc, consolidons. Ceux qui ont eu la chance de le faire entre 2003 et 2005 ont pu consolider tranquillement. Ceux qui n'ont pas encore fait, ça serait peut-être bien de prendre un petit temps pour consolider les applications. Troisième chose, utiliser la qualité, la conformité et l'accessibilité comme facteur de différenciation. Là, on n'est pas forcément d'accord avec Laurent et je pense qu'il a plus raison que moi, donc oubliez ça. C'est peut-être pas un bon facteur de différenciation, je sais. Dernière chose, le domaine de la normalisation industrielle s'est fait sur la base d'industriels qui collaborent ensemble pour produire avec des organismes de normalisation des standards, des grandes applications, enfin des grandes normes. La particularité, c'est que les utilisateurs ne participent pas à la fabrication des produits dans le domaine industriel classique. Donc, ça pose pas de problème. Les normes, elles sont propriétaires et elles sont, si vous voulez, les normes ISO. Elles ont été faites par les industriels. Le problème sur le web, c'est que le web, il est fait par tout le monde. Tout le monde est publicateur. Tout le monde est publicateur. Ouais. Ça marche ? Éditeur. Grosse fatigue. Tout le monde est éditeur. Tout le monde peut éditer des sites perso. Tout le monde peut participer à la création, encore plus avec ce fameux Web 2.0 sur le plan social. Donc, en fait, en réalité, ces standards de qualité, ceux qui vont venir devraient, en toute logique, il devrait se passer la même chose que ce qui s'est passé dans le domaine du logiciel. C'est-à-dire qu'on commence à voir arriver de la normalisation libre. Ce qui est un peu bizarre comme idée. Libre, des standards gratuits, au moins où on peut accéder au contenu. Ça ne veut pas dire que les organismes normalisateurs, les grands organismes de normalisation ne pourront plus vendre des normes. En tout cas, peut-être plus l'exclusivité pure sur ces contenus. Parce qu'ils auront été produits par des gens qui participent à l'élaboration du média. Et donc, c'est presque un appel que je fais parce que je me dis, ces fameux standards d'utilisation, ces standards notamment de bonnes pratiques, je pense qu'il faut que beaucoup de gens participent, comme ça s'est passé dans le domaine du logiciel, il faut que des gens participent à leur création. Donc voilà, je disais, construisons nos règles communes parce que il me semble que c'est important, on y participe tous. Voilà, je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup. Juste une petite remarque, justement, tout à l'heure, on parlait des gens qui font du marketing. Ça, c'est un outil qui est intéressant parce qu'il est juste à mi-chemin entre de la technique et du décisionnel. Et ça, vous pourriez, pourquoi pas, l'imposer à une agence. Plus ou moins. Pas forcément tous les critères, mais dans l'ensemble, la plupart de ces critères sont compréhensibles par des gens qui font pas d'informatique. Et c'est un vrai souci de la part des gens d'Opcast, et c'est un vrai souci que nous, on est nombreux à partager, même si on peut donner l'impression d'intégrisme. Nous, on ne sait pas vous. Alors, enfin, je vais vous donner le micro pour qu'on l'enregistre.
Je disais que je trouvais, ben, je vous remercie que cette présentation était vraiment excellente, parce que j'ai vraiment tout compris de A à Z. Donc déjà c'est pas mal. Et je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait récupérer, est-ce qu'il est prévu de récupérer les présentations?
Alors oui, ça sera prévu le temps que les orateurs nous donnent tous les fichiers, tout ce qu'il faut. Mais ça sera sur le site avec certainement l'audio et peut-être quelques vidéos.
D'accord. Merci.
Ludy Mansart de nouveau, Easy Concept. J'ai une question concernant les 5 qualités dont vous aviez parlé. Je relis, hein, parce que c'est VPTCS, que vous disiez il n'y a pas de hiérarchie entre ces points, mais je pense pas que vous ayez mis ces 5 qualités dans cet ordre-là juste pour faire joli ou parce que vous aviez un moyen mnémotechnique, mais parce qu'elles ont cet ordre d'importance. Moi, j'utilise pas ces termes-là en Belgique, même en Belgique francophone. Mais c'est la même chose. Quand j'explique que si on trouve pas un site sur les moteurs de recherche, s'il est pas bien positionné, c'est pas la peine d'en avoir un. Et on cherche majoritairement sur les moteurs de recherche, sauf si on s'appelle Renault ou L'Oréal, parce qu'on les a pas cités tout à l'heure. Si le site est moche, on fouille. Et si le site est pas ergonomique, qu'on n'y trouve pas l'information, notamment une partie des 190 points que vous citiez, le téléphone, parfois, on ne le trouve pas.
Ce que vous dites, permets de vous interrompre, parce que j'ai une réponse, je pense que ça va répondre directement à votre question. En fait, ça repose sur l'expérience utilisateur dans un ordre. Alors, ce que vous dites, un ordre d'importance, moi je dis c'est pas un problème d'importance, par contre c'est un problème chronologique. Visibilité, perception, technique, contenu, service correspond, et pour nous on est parti à la rédaction de cet article, on est parti sur l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le temps. En termes d'importance, je n'hésiterai à aucun moment à dire que ce sont les contenus et les services qui, pour moi, ont le plus d'importance sur les sites. C'est-à-dire que la visibilité d'un site se déduira de ses contenus. J'aimerais bien avoir un blog avec 150 000 visiteurs par jour. Je pense que si j'écrivais mieux et si je publiais tous les jours... Un, deux.
Je pense que si je publiais plus régulièrement et mieux et des choses plus intéressantes, j'aurais un monde fou. Mais c'est pas le cas. Et il n'y a pas de secret. Moi, je vois les grands blogueurs, il y en a dans la salle, là, je dis chapeau. C'est leur contenu. Et c'est pas des agences de référencement. Je sais pas si ça répond à votre question. Hein. Pour l'importance, moi, je mets les contenus au-dessus de tout. Surtout qu'il est absolument terrible, lorsqu'on échange dans les grandes entreprises, de se retrouver devant des gens qui mettent la technique. Par exemple, il arrive souvent devant des directions informatiques, de voir des gens pour lesquels, clairement, l'informatique, c'est le plus important. Ou des gens dans lesquels la visibilité, c'est le plus important. Et non. Non, non. Un site, ça a une utilité. Si ça n'a pas d'utilité, c'est pour ça d'ailleurs qu'au début, je parlais de qualité des sites Internet et que depuis un bon moment, on parle de services en ligne. Qu'au moins, on voit à quoi ça sert, quoi. Donc, on remette ça au cœur du problème. L'utilité, quoi.
Bonjour, Olivier Margeran, je suis à la fois chef de projet commercial et un petit peu intégrateur, mais certainement pas autant que la majorité d'entre vous ici, dans une agence qui s'appelle bonnenouvelle.fr. En termes de standards intégration CSS, je ne suis pas du tout probablement au niveau de la moyenne de cette salle. C'est-à-dire que, par exemple, je ne serais probablement pas capable de transformer la plupart des designs sans tableau. Je sais, ça fait mal.
C'est pas évident.
Bon. Simplement, je pense avoir de plus en plus conscience de ce que ça représente. Je connais Opquest depuis septembre 2004. J'ai évalué plusieurs sites avec. Et je pense que justement, pour répondre à Laurent Glohagen, c'est un excellent outil pour vendre la qualité web. C'est-à-dire que les clients sont capables de comprendre ce que ça représente, ce que ça leur apporte. Et surtout, si on leur dit après, comme ça a déjà été dit, que ça fait gagner du temps par la suite. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on va leur revendre des prestations après la création ou la refonte d'un site. Ils savent très bien qu'on va les agripper pour leur sucer encore un petit peu tout ce qu'on peut pendant 3, 4, 5, 10 ans. Donc, si on leur vend des choses, c'est aussi pour que chez eux, ça crée de la valeur ajoutée. C'est aussi pour que nous, on devine leurs besoins. Si en plus, on leur dit que ça leur coûtera beaucoup moins cher qu'avec n'importe quelle autre technique, ils comprennent. Donc, faut pas se leurrer. Et hop, quoi, c'est un bon outil. Il y a juste un point qui est souvent flou pour des gens qui sont pas du tout techniciens, c'est le non applicable. Parce que, effectivement, cette colonne-là, donc c'est des choses qu'on peut pas appliquer par définition sur le site. Si on leur explique pas dans les détails, ils ont l'impression de se faire avoir. Donc peut-être qu'il faudrait trouver un autre moyen de le faire. Et un dernier point, c'est surtout pour ça que j'intervenais au départ. Juste une petite note, j'ai pas du tout de formation de technicien et je m'oriente plus vers le marketing puisque je commence une formation de marketing en cours du soir cette année. Mais ce que je souhaite dire quand même, c'est que je voulais suivre une formation avec Temesis et ça n'a pas été possible. Et donc j'en ai de fait, entre guillemets, de moins en moins besoin puisque je me forme de plus en plus par moi-même sur le web. Et je pense que c'est prépondérant d'offrir ce genre de service, gratuit ou non, à des entreprises et donc à des directions marketing ou communication, parce que c'est un service qui peut vraiment faire prendre conscience de ce que c'est que la qualité web, et pas juste la vendre pour pouvoir la faire, mais la vendre pour convaincre. Et je suis convaincu que ça peut marcher.
On va croire que vous êtes venu avec moi.
Non. Voilà. Au début, j'étais pas du tout convaincu par l'outil. Ouais. Ça me parlait pas. Et puis, je pense que ça peut vendre. Donc, oui. C'est une piste, quoi.
Alors, merci beaucoup. Hein. C'est toujours agréable d'avoir ce genre d'encouragement. On va s'efforcer d'être de plus en plus clair sur la façon dont on travaille. Et puis, de vous proposer du web 2.0. De l'Ajax, hein, pas web 2.0, je vais prendre des tomates. On va essayer d'être de plus en plus clair sur la façon dont on travaille. Pour le non applicable, j'espère qu'on vous donnera... un peu plus d'informations, des aides un peu partout. On va essayer de rendre ça plus sympa. Et puis surtout, ce qui va être très rigolo, c'est le fait que tout le monde puisse se créer ses propres listes de critères. Ça, c'est bon. Peut-être que je suis fou, mais je crois que c'est possible.
Élie, juste une toute petite question justement pour les gens qui ne connaissaient pas Pompage. On est sûr qu'ils connaissent pas non plus OpenWeb, ou à peu près. Est-ce que tu pourrais le définir en quelques mots, même si le président d'OpenWeb est pas loin.
OpenWeb. Alors OpenWeb, c'est un collectif, c'est un ensemble de personnes qui se sont rassemblées avec une envie commune de faire connaître les standards, que ce soit du point de vue décideur, que ce soit pour les experts ou que ce soit pour les personnes opérationnelles, essayer de fournir des informations les plus claires possibles. Je parle sous le contrôle du président. C'est vrai que t'es pas président, non ? Donc je parle sous le contrôle de personne. Donc, c'est un collectif donc mu par ces objectifs-là. Et surtout, je crois que il y avait aussi un souhait de démontrer par l'exemple. C'est vrai que quand Tristan m'a téléphoné, m'a dit « Regarde Open Web », j'ai tout de suite compris ce que c'était que la différence entre un site accessible et standard bien fait et tous les sites que j'avais l'habitude de voir. Encore une fois, pas parce que c'était des mauvais sites, mais parce que c'était comme ça qu'on les faisait. Donc voilà, c'est, je sais pas si c'est une initiative collective. C'est vraiment ce qui définit le mieux, c'est un collectif.
Quelque chose qui peut être précisé à propos Karl Dubasse, pardon. Quelque chose qui peut être précisé à propos d'Open Web, c'est que c'est pas réservé à un public technicien qui connaît bien la technologie. C'est il y a trois niveaux d'accès si je me souviens bien, et donc on peut avoir des parcours très personnalisés en fonction de son niveau. Et ça c'est très très bien pour dans une démarche d'évangélisation. J'aime pas beaucoup le terme, mais dans une démarche d'éducation du client ou pour vous-même par rapport à la technologie.
Oui, j'ai une Joël Ronez, je suis consultant en... C'est une remarque et une question. Hein. Je suis consultant en qualité, en contenu éditorial. Bon, j'interviens dans le domaine de la qualité éditoriale et je fais partie un peu comme Madame des extraterrestres qui était un peu inquiet ce matin et qui effectivement là aujourd'hui commence à me sentir mieux cet après-midi dans mon élément.
C'est votre tasse de thé.
Tout à fait. J'étais venu ici un peu aussi en me disant il faut quand même, parce que pendant longtemps j'ai vu beaucoup de développeurs qui savaient très bien programmer mais qui savaient pas lire, et effectivement à la fin on avait dans la démarche vers la qualité un problème, c'est que à un moment donné il faut quand même un minimum que ce qui est effectivement publié soit lisible. Je pense que je suis assez d'accord avec vous sur le processus vers la qualité. Je pense que ça c'est une bonne chose, on en est tous conscients. Je voulais juste plaider pour une catégorie, parce que le grand gagnant dans tout ça, c'est quand même le visiteur. Depuis ce matin, on a parlé principalement et exclusivement du visiteur. Tout ça, c'est à son bénéfice. Et bien sûr, hein, ce bénéfice rejaillit ensuite sur l'éditeur, etc. Mais on a oublié quand même une catégorie de plus en plus importante, numériquement parlant de gens, ce sont les contributeurs qui sont un peu les losers dans l'histoire. Parce que tout ce temps que vous êtes, vous fabriquez sûrement, vous mettez en ligne des produits très intéressants à base de CMS. Et moi, ça m'arrive dans le cadre de mes activités, notamment dans les collectivités territoriales, le secteur public, et on sait que c'est des gros utilisateurs de ce type de système, parce qu'ils charrient beaucoup de contenus, qui sont très demandeurs, et ça m'arrive d'aller former ensuite ces gens qui, il y a 5 ou 6 ans, parce que je faisais déjà ça à l'époque, qui étaient, par exemple, pour une structure comme l'INSEE, il devait être une petite dizaine. Aujourd'hui, effectivement, ils sont à peu près 20 par INSEE régional. Au siège à l'INSEE, ils doivent être effectivement plusieurs centaines.
Les contributeurs se multiplient, ne serait-ce que sur les blogs d'ailleurs.
Tout à fait. Mais les contributeurs au sein des organisations et au sein des systèmes, des CMS, ce sont largement, enfin la base s'est largement élargie. Et ces gens-là, si vous voulez, je reprends un terme de mon confrère respecté Jean-Marc Hardy du site rédaction.be qui décrivait, il disait l'utilisation des CMS c'est un harcèlement, une punition morale par certains côtés, des fois il est impossible d'y faire un copier-coller. Moi quand j'ai à expliquer, j'irai à des personnes qui il y a encore 2 ans rédigeaient pas du tout, qui se retrouvent aujourd'hui à rédiger, à publier sur des sites internet, que pour mettre par exemple une balise title il faut dans le champ Ahref il faut passer en HTML, effectivement à quel endroit il faut intervenir dans le code manuellement, parce que ça n'a pas été prévu. Comment, des fois, pour créer des catégories, il faut aller dans des menus, des sous-menus, en faire des associations. Termine rapidement. Ouais, je voulais dire, est-ce que cette démarche-là, est-ce que finalement, 50% du succès se fait pas aussi sur l'ergonomie, la qualité des back-office utilisateurs? Est-ce que vous avez une démarche là-dessus?
Ouais.
Parce que j'en ai pas entendu parler.
Alors, on a fait une conférence l'an dernier pour les rencontres mondiales du logiciel libre. Donc c'était en 2005, où en fait la thématique, c'était avec Laurent Denis et François Palassi qui l'a présenté. Voilà. La question était de savoir, c'est accessibilité et système de gestion de contenu. Sachant que quand on touche l'accessibilité de ces CMS, on touche aussi la qualité. On va la toucher d'une manière ou d'une autre, y compris pour se rendre compte que c'est pas bon. Donc, on avait essayé de lister les 4 ou 5 possibilités qui sont offertes à un éditeur de CMS ou à une personne qui met en place un CMS pour qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos possibilités, est-ce qu'il faut assister, est-ce qu'il faut prévenir, est-ce qu'il faut valider avant, est-ce qu'il faut valider après. Donc je vais plutôt vous renvoyer, parce qu'on peut pas couvrir dans une conférence, c'est vrai que accessibilité et CMS, on y a pensé. Vous avez cette conférence qui est disponible en ligne. Donc, si vous voulez, on se contactera. Je vous ferai passer les slides. On s'était vraiment bien creusé la tête. Et je crois qu'il y a un monde à découvrir dans ce domaine. Et je pense aussi qu'il faut accepter que comme on a passé une espèce de phase difficile d'industrialisation où on travaillait avec des trucs où ça marchait pas, machin, comme on a à souffrir avec CSS parce que ça se présente pas comme on veut dans Internet Explorer ou d'ailleurs dans d'autres navigateurs, bah on va souffrir aussi avec les CMS et on va souffrir et on va s'améliorer. Voilà, c'est work in progress. J'aurais tendance à dire ça. C'est vraiment, ça va avancer. On a eu l'impression, quand on a fait cette conférence l'an dernier, on avait l'impression d'être pratiquement les premiers à écrire là-dessus, au moins en France. Après, le mettre en musique, c'est autre chose.
Oui, donc ça, je comprends les difficultés. Juste, vous l'aviez évoqué à la votre conclusion. Vous disiez, ça va se passer comme dans le domaine du logiciel. Effectivement, aujourd'hui, la plupart des logiciels, hein, les fichiers ouvrir, tout ça, c'est des notions qu'on a intégrées. Effectivement, j'espère que ça ira dans le bon sens.
C'est un vœu pieux.